Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle conférence conjointe organisée par le GANIL et l'UFR des sciences. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Pierre-Olivier Lagage, qui nous fait le plaisir donc, de cette conférence. Donc Pierre-Olivier Lagage est directeur de recherche au CEA. Il dirige actuellement le département d'astrophysique au CEA IRFU. Il a été le responsable scientifique de la contribution française à l'instrument MIRI, donc un capteur infrarouge moyen du télescope James Webb. Et il a conduit des observations d'exoplanètes faites avec cet instrument dans le cadre donc, du temps garanti d'observation qui revient aux développeurs d'instruments. Il travaille également à la prochaine mission spatiale, entièrement dédiée à l'observation des exoplanètes, la mission Ariel de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est prévu en 2029. Il est par ailleurs impliqué dans un très grand programme, qui est la prochaine mission phare de la NASA, qui est de Habitable World Observatory, dont le lancement est prévu dans les années 2040. Merci beaucoup.
C'est bon pour le micro ? Ok, ben merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler du JWST et des exoplanètes. Et donc, je vais parler justement de ce qu'on découvre actuellement avec le télescope spatial Webb sur les exoplanètes. Mais avant, je vais faire un petit historique sur les exoplanètes. Finalement, il n'y a pas très longtemps qu'on sait qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, qu'on appelle exoplanètes. C'est seulement en 1995 qu'il y a eu la première détection d'une exoplanète. Et ça a été par Michel Mayor et Didier Queloz. C'était en France, à l'observatoire de Haute-Provence, dans le sud. C'est là où ils ont fait leur découverte, qui a valu ce prix Nobel. Et cette première découverte a été faite avec ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Quand on a deux corps, eh bien, les corps bougent autour du barycentre de masse. Donc, même si l'étoile est beaucoup plus grosse que la planète fait une petite perturbation sur l'orbite de cette étoile. C'est ce qu'on voit à travers ce chemin-là. Et comment on peut voir cette... Donc, ce qu'on regarde, ce n'est pas la planète, on regarde son effet sur l'étoile. Et comment peut-on voir l'effet sur l'étoile ? Il faut regarder... Alors... devrait être là... Voilà, on voit. Donc, une étoile, ça a des raies d'absorption. Donc, les bandes noires, quand on regarde une étoile, eh bien, on voit ces bandes-là. Et quand l'étoile s'approche de nous, il y a un décalage vers le bleu, et quand elle s'éloigne de nous, il y a un décalage vers le rouge. C'est l'effet Doppler. Et c'est ce qu'on voit très bien quand on regarde avec une très bonne résolution spectrale une étoile qui a une planète. Eh bien, on voit le spectre qui bouge. Et on peut, à partir de là, voir le mouvement, voir une sinusoïde, et voir quel est l'objet, la masse de l'objet qui induit cet effet. Alors la première détection a amené la première grande surprise, parce que ce qui a été trouvé, et personne ne s'y attendait, c'est une exoplanète géante, même plus massive que Jupiter, mais très très proche de son étoile hôte. Qu'est-ce que ça veut dire très proche ? C'est presque 10 fois plus proche que Mercure dans notre système solaire. Et alors que dans notre système solaire, toutes les grosses planètes sont encore beaucoup plus loin, 4, 5 ANU, donc unité astronomique. Donc c'est plus de 100 fois plus proche que nos planètes. Et ça, personne ne l'avait prédit. Et donc ça a été la première surprise. Alors c'était tellement surprenant que les gens ont douté très longtemps. Est-ce que c'était vraiment une exoplanète ou est-ce qu'il pouvait y avoir d'autres effets de l'étoile elle-même, etc. Et c'est seulement... Alors, c'était d'autant plus délicat que Bon, beaucoup pendant ces années-là ont observé des exoplanètes, en ont détecté, et il n'y avait pas de détection par ce qu'on appelle le transit. Normalement, quand il y a beaucoup d'étoiles, à un moment, on doit pouvoir en voir une qui est bien placée entre nous et l'étoile et faire un transit, que je vais expliquer juste après. Et donc, personne n'en avait encore trouvé, donc c'était de plus en plus délicat de défendre que c'était des exoplanètes. Jusqu'à... Alors voilà la méthode des transits. Pourquoi je ne vois pas mon... Voilà. Donc voilà la méthode des transits. Hein. Donc quand une planète passe dans la ligne de visée entre nous et l'étoile, elle cache un tout petit peu de l'étoile, et donc on voit une diminution du flux de l'étoile. C'est de nouveau une méthode indirecte. On voit l'effet de la planète qui obscurcit une partie du flux qu'on reçoit de l'étoile. Donc, ça a été observé pour la première fois en 1999, c'est-à-dire 4 ans après. Et à partir de là, il était clair que ce qui avait été vu, c'était des exoplanètes. Il y avait 2 méthodes qui donnaient la même chose. C'était clair. Oui. Enfin, c'est pas la première. C'est une autre, mais qui a été vue par les 2 méthodes. Parce qu'après la première, il y en a eu beaucoup qui ont commencé à être vues. Donc c'est HD 209-458, c'est pas celle que j'ai montrée tout à l'heure, mais elle avait été aussi vue par vitesse radiale. Et après, avec le Hubble Space Telescope, ça a été aussi observé, la même, et évidemment depuis l'espace, la sensibilité, enfin la stabilité est beaucoup plus grande, puisqu'il y a l'atmosphère à partir du sol, et vous voyez très nettement la différence entre ce qui a été observé, la première exoplanète observée par transit, ouais, et la même observée avec le HST. Donc vous voyez la qualité énorme qu'on gagne, même dans le domaine visible. Tout ça s'est fait dans le domaine visible en allant dans l'espace. Et il y a eu plusieurs missions spatiales. La première, c'est Coro par le CNES. Donc c'était la première mission qui a pu faire des transits de façon régulière dans l'espace. Après, il y a eu une mission de la NASA, Kepler, et puis actuellement, il y a une autre mission de la NASA, TESS, qui continue à observer pour détecter des exoplanètes par la méthode de transit. Si on regarde où on en est aujourd'hui, alors on en est à près de 6000 exoplanètes détectées, principalement par les transits combinés très souvent par la vitesse radiale. Et ici, vous avez la période en jour et la masse en unité de masse de Jupiter. Et les 2 mots qui peuvent caractériser ces exoplanètes, c'est la diversité. Finalement, statistiquement, on peut dire qu'il y a plus de planètes que d'étoiles, parce qu'une étoile peut avoir plusieurs planètes, et elles ont quasiment toutes des planètes. Et l'ubiquité, oui, c'est partout, et elles sont très diverses. Donc, on a les Jupiters chauds, donc comme la première détectée, une exoplanète géante très proche de son étoile. Et maintenant, on commence jusqu'à avoir des planètes rocheuses. Et certaines sont aussi très, très proches de leur étoile, très, très chaudes. Donc, c'est ce qu'on appelle des planètes de lave. Et entre les 2, on pense qu'il peut y avoir des planètes avec des océans. Donc il y a toute une classe de planètes qu'on ne connaît pas dans le système solaire qui sont intéressantes à étudier. Donc toutes ces études permettent aussi de mettre le système solaire en contexte. Et on trouve peu de systèmes, parce qu'on a des systèmes planétaires maintenant autour d'autres étoiles, il y en a peu, même très peu, qui sont comme le Soleil. Donc justement, cette première découverte a amené une première question. Pourquoi notre système solaire, il est comme il est? Pourquoi les planètes géantes, Jupiter, Saturne, sont loin et que dans d'autres cas, elles sont toutes proches? Surtout qu'on a trouvé une explication pour dire qu'elles étaient toutes proches. Quand elles se forment dans un disque de gaz et de poussière et il peut y avoir de la friction qui un peu les freine et les amène à spiraler vers leur étoile. Donc, notre système solaire est particulier, c'est parce qu'il avait 2 exoplanètes lointaines qui ont eu un effet différent, qui ont permis de faire... Elles ont commencé à spiraler, puis après, elles se sont arrêtées Enfin, donc il y a des modèles actuellement pour expliquer pourquoi notre système solaire est différent de beaucoup d'autres. Donc, mais il faut savoir qu'on est différent. Donc voilà tous les... Alors, l'intérêt, donc j'ai parlé d'exoplanètes Terre, enfin Terre ou rocheuses. Comment sait-on qu'elles sont rocheuses? Alors ça, c'est quand on peut combiner un transit, parce que le transit dépend du rayon de l'exoplanète, au plus le rayon est grand, au plus il cache de lumière, donc, et la vitesse radiale nous donne la masse. Ce qui est important dans la mécanique, c'est les masses des objets. Donc quand on a à la fois le rayon et la masse, on peut en déduire une densité moyenne. Et c'est comme ça qu'on sait si c'est une densité moyenne proche de celle de la Terre, donc rocheuse, ou comme les géantes dans le système solaire, donc faible densité, donc gazeuse géante. Et donc on a, ça c'était tout début, hein, entre donc, et à la masse de la planète et le rayon de la planète, et à partir de ces deux mesures, eh bien, on peut voir si c'est plutôt du fer, de la roche, de l'eau ou de l'hydrogène, comme nos planètes géantes. Donc, la détection d'exoplanètes va continuer. Hein, c'est un domaine qui continue avec différentes missions dans l'espace. Il y a une mission d'astronomie Gaïa qui, d'ici quelques temps, va avoir plein d'exoplanètes détectées. Par une autre méthode, qui est l'astrométrie. Là, on suit dans le ciel le mouvement de l'étoile par astrométrie. Vraiment, en comparant avec d'autres étoiles, on peut dire cette étoile-là bouge plus que d'autres, etc. Il y a une mission plateau de l'ESA qui va être lancée en fin 2026, dédiée aussi à chercher des planètes Terre autour d'étoiles comme le Soleil, parce qu'on ne connaît pas encore leur nombre. Donc on veut connaître ce qu'on appelle le nombre de planètes Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Et puis au sol, il y a aussi des missions au sol. Puis il y a la mission TESS qui continue à chercher des exoplanètes, justement pour alimenter le JWST. Mais là je voudrais rentrer dans un nouveau chapitre pour l'étude des exoplanètes, c'est la caractérisation de leur atmosphère. On est maintenant, et notamment grâce au JWST, capable de voir le contenu en molécules, en atomes, de leur atmosphère. C'est ça qui est ce que j'appelle le deuxième chapitre d'étude des exoplanètes. Alors pourquoi on étudie l'atmosphère des exoplanètes? Donc il y a plusieurs raisons. Il y a une raison de recherche, de modélisation. Pour développer des modèles, c'est très bien d'avoir toute une gamme de paramètres. Et là, on a vu la diversité des exoplanètes. Donc, on veut pouvoir tester les modèles d'atmosphère dans d'autres planètes que celles de notre système solaire. Donc, on veut voir quels sont les processus physiques, chimie à l'œuvre dans ces atmosphères. La formation de nuages, on sait qu'on a vu qu'il y avait des nuages dans ces atmosphères. Quelle est la structure, profil, pression, température? On peut voir la dynamique, c'est-à-dire des vents, éventuellement le climat, des changements. Après, avoir le contenu, notamment moléculaire, de l'atmosphère d'une exoplanète, permet à remonter à sa formation et à son évolution. Ensuite, quand on fait des densités moyennes, on ne prend pas en compte l'atmosphère et l'atmosphère peut, dans certains cas, changer la donne. Donc, il y a une dégénérescence quand on prend simplement des densités moyennes, quand on veut des détails fins. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Et alors, sur les rocheuses, l'idée, c'est de savoir déjà s'il y a une atmosphère. En général, s'il y a une atmosphère, c'est plutôt une atmosphère dite secondaire, c'est-à-dire quand la planète s'est formée, elle avait une atmosphère, souvent avec de l'hydrogène, et c'est très facile de perdre pour une petite planète, c'est très facile de perdre cette atmosphère. C'est comme la Terre, l'atmosphère actuelle, ce n'est pas une atmosphère primaire, c'est une atmosphère secondaire, qui a été notamment l'oxygène qui a été fait par des bactéries, etc. Donc ça, c'est une des questions clé pour, pour les études d'atmosphère. Et à long terme, alors on n'y est pas encore, c'est la recherche de biosignatures dans les atmosphères. Mais évidemment, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une biosignature. Et c'est déjà compliqué parce que au début, on se disait, ah ben, il suffit de prendre comme la Terre, d'avoir de l'ozone. Mais on voit que, notamment dans les petites étoiles, les flux UV importants peuvent aussi créer de l'ozone. Ça sera très compliqué de dire c'est vraiment une signature biologique. Mais je pense qu'on y arrivera, mais dans quelques dizaines d'années, notamment avec HWO, des choses comme ça. Mais c'est important de préparer, de bien comprendre l'atmosphère pour agir, pour un moment dire, ben ça on ne comprend pas. On ne peut pas, avec nos modèles physique, chimie, expliquer ça. Il faut quelque chose d'autre pour expliquer. Donc, quand on dit qu'on caractérise l'atmosphère, eh bien, on peut vraiment déterminer quelles sont les molécules dans cette atmosphère, ou même quels sont les atomes. On peut vraiment voir la présence de nuages, avoir des informations sur la taille de ces gouttes de nuages, de ces petits nuages. Bon, le profil pression-température, j'en ai parlé. Hein, et puis, la dynamique. Et voilà, donc atmosphère ou pas. Alors, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile que la détection. Pourquoi c'est plus difficile que la détection? Alors, la méthode, c'est aussi la méthode des transits, qui est la plus utilisée pour... Ouais. Mais vous voyez sur ce petit dessin, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la couche d'une hauteur qui est beaucoup plus fine, la couche est beaucoup plus fine que le rayon. Donc, elle cache un petit peu de la lumière de l'exoplanète, mais beaucoup moins que le rayon. Et donc, là, si on prend des équations, hein, c'est le rayon de la planète sur le rayon de l'étoile au carré quand on fait la détection. Et puis là, on rajoute un petit terme qui est simplement rayon de la planète par la hauteur qui est beaucoup plus petite que le rayon. Donc, c'est beaucoup plus difficile.
Je peux
prendre
la formule ?
Vas-y, oui.
Je
peux
prendre la formule ?
Oui, ah bah oui, oui.
C'est...
Donc là, il y a une approximation, hein, parce que normalement, c'est R planète plus H au carré, mais un développement limité comme H est beaucoup plus petit que R, ça fait 2 RPH. Voilà. Et H, c'est classique, ça dépend de la température et puis de la gravité. La gravité a tendance à faire plus petit. Et aussi du poids moléculaire. C'est pour ça que des atmosphères secondaires sont beaucoup plus difficiles, parce que pour l'hydrogène, c'est 1, et puis pour des atmosphères secondaires avec des éléments plus lourds, eh bien, c'est plus grand, donc la hauteur est plus petite. Ça se comprend. Bon, alors, qu'est-ce qui arrête la lumière quand on est dans l'atmosphère? Ce sont les atomes, les molécules et les brumes, les nuages, voire les nuages. Donc, ça dépend des longueurs d'onde. Les molécules arrêtent dans certaines longueurs d'onde. Donc, pour détecter quels sont les types de molécules, on a besoin de faire de la spectroscopie. Alors que pour la détection, on n'a pas besoin forcément d'un spectromètre. Là, si on veut identifier les molécules dans l'atmosphère, on les identifie parce qu'elles arrêtent la lumière dans certaines longueurs d'onde, dans certaines bandes de longueurs d'onde. Donc on a besoin de faire de la spectroscopie pour obtenir spectroscopie, oui. C'est-à-dire, hein, la lumière, c'est ce qu'on voit dans les arcs-en-ciel. Hein. Donc la lumière blanche est faite de quantités de lumière, et donc la spectroscopie permet de mettre toutes ces lumières en différentes positions. On peut voir les différentes lumières qui composent la lumière blanche. Donc, c'est ça. Et la plupart des signatures de ces molécules sont dans l'infrarouge. Donc, il faut de la spectroscopie dans l'infrarouge pour pouvoir étudier les atmosphères d'exoplanètes. Alors, voilà comment ça se passe. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. On a dans l'atmosphère, disons, différentes couches de molécules. Et ici, vous avez, selon la longueur d'onde, la taille du rayon est plus ou moins grande parce que à une longueur d'onde donnée, des molécules arrêtent. Donc si elles arrêtent la lumière, le rayon est plus grand. Et à d'autres longueurs d'onde, il est plus petit. Donc on a, selon les longueurs d'onde, des rayons différents observés à cause de molécules qui absorbent dans des longueurs d'onde spécifiques.
Donc les molécules ouais. Sont proches, c'est ça ?
Oui, dans certaines bandes de fréquences ou de longueurs d'onde.
Ouais.
Par exemple, du sodium sur les lampes, certaines lampes, on peut voir que ça a des bandes d'absorption, par exemple. Alors, et puis, depuis 2022, on a le moyen de faire de la spectroscopie et d'étudier les atmosphères grâce au JWST, James Webb Space Telescope, et on dit souvent, c'est le Webb. Alors, quelques mots sur le Webb. Donc, ça a été le programme phare de la NASA, avec participation européenne à travers l'ESA et canadienne. C'est vraiment le plus grand télescope et le plus complexe jamais envoyé dans l'espace. Alors, la surface collectrice, c'est, je préfère parler en mètres carrés, 25 mètres carrés. C'est un miroir de 6,5 mètres. Donc, il y a des étudiants ici et je suppose que leur chambre est plus petite que les 25 mètres carrés du JWST. Donc, ça donne l'échelle de taille. Et c'est un télescope qui observe un peu dans le visible, mais il est surtout dédié aux observations dans l'infrarouge. Donc après le visible, les longueurs d'onde, c'est de 0,6 à 28 microns. Alors le lancement, j'ai eu la chance d'être participé au lancement, c'était à Kourou et c'était lancé par une fusée Ariane. À cette époque, la NASA n'avait pas il y a eu toute une période où la NASA n'avait pas la fusée qui permettait de lancer le JWST. Donc les personnes d'Ariane ont vraiment mis tout leur cœur à avoir la meilleure fusée pour ne pas qu'il y ait d'échec pour le bijou technologique de la NASA. Et tout a très bien marché. Ça a été un lancement quasi parfait. Et ça a eu une conséquence pour nous très très bonne, très très heureuse. C'est qu'il y avait des réserves d'ergol pour ajuster la trajectoire et il n'y en a pas eu besoin. Et ce qui fait qu'on a toujours besoin d'ergol une fois en poste, c'est autour du point de Lagrange L2 à 1,5 km de nous, mais ça va pouvoir, on a suffisamment de quantité pour que le JWST soit en opération plus de 26 ans alors qu'il était spécifié pour 10 ans. Alors, il y aura peut-être d'autres pannes, mais en tous les cas, il y a du vieillissement, mais en tous les cas, ça ne sera pas les problèmes de manque d'ergol comme quand ça arrive souvent. Donc, ça, c'est un. Donc, c'était vraiment. Là, les Américains ont vraiment pu remercier Ariane et le CNES. Tout ça s'est passé au CNES à Kourou. C'était une période un peu folle, quoi, d'y être. Alors après, la complexité et le grand défi de ce télescope, le rayon, les 25 mètres carrés, ça ne pouvait pas être mis dans la coiffe de la fusée. Il a fallu replier. Et il y a une autre chose aussi pour un télescope infrarouge, il ne faut absolument pas que les rayons du Soleil et même de la Terre puissent chauffer le télescope. Un télescope infrarouge doit être froid, sinon, il va émettre de la lumière qui va gêner les observations. Vous émettez de la lumière, on verra ça tout à l'heure, j'espère que ça marche. Voilà, donc il faut descendre suffisamment la température pour pas qu'il émette. Et pour ça, il y a un grand écran que vous voyez là sur la gauche qui a donné bien des soucis aux ingénieurs de la NASA pour... Donc il est complètement replié, vous le voyez sur les deux côtés, et il se déplie une fois dans l'espace pour protéger le télescope des rayons du Soleil et de la Terre. Et tout ça, ça a très bien marché. Il n'y a eu qu'une... Et donc ce qu'on appelle les points de panne unique, c'est-à-dire que si quelque chose ne marche pas, la mission est foutue. Et en général, dans des satellites habituels, c'est une cinquantaine de points de panne unique. Et là, il y en avait 344 pour montrer le gain en complexité qu'il y a eu. Alors, ce n'était pas tout, et donc tout il s'est déployé parfaitement aussi. Il y a juste eu un moment. Au début, il devait y avoir l'ouverture, ils étaient protégés, ce bouclier thermique était protégé, et ça s'est ouvert, et il y avait des petits... ça m'arrive en anglais, il y avait des petits boutonniaux, disons, pour dire que ça y est, ça s'est bien ouvert. Et ça, ça n'a pas marché. Donc il y a eu une frayeur un moment, est-ce que ça s'est ouvert ou pas? Et puis ils ont vu après que ça s'était bien ouvert, mais c'était la panne. Bon, c'est pour la petite histoire, ça. Donc voilà, donc, sinon tout a bien fonctionné. Alors l'autre défi, c'est fait de 18 petits miroirs hexagonaux. Et derrière chaque miroir, il y a 6 actuateurs pour donner la forme finale de chaque miroir. Ce n'est pas comme Hubble. Hubble, c'était un télescope monolithique qui était lancé comme ça. D'ailleurs, au début, on a bien vu qu'il y avait un problème. Mais là, et si bien que ce télescope de 25 mètres carrés est plus léger que Hubble. Parce que quand on peut ajuster à la fin... la forme, on n'a pas besoin de quelque chose de très massif comme un télescope monolithique. Et donc, mais par contre, il fallait après optimiser, phaser ces différents hexagones avec tous ces actuateurs. La première chose, c'est vous avez 18 images et vous réglez chaque miroir individuel pour avoir la meilleure image. Et après, vous devez orienter chacun des hexagones pour faire converger toutes ces images en une seule image. Et c'est ce qui a été fait, et assez rapidement finalement. Et la qualité image, alors je ne sais pas s'il y a des opticiens ici, mais ce qu'on appelle la qualité image, c'est quand on obtient la limite physique de diffraction. On ne peut pas faire mieux, c'est la loi de physique qui nous dit il y a un phénomène de diffraction, donc quand vous regardez une étoile, même à l'infini, vous n'avez pas un point, vous avez une tache qui s'appelle la tache de diffraction. Et la spécification, c'était d'avoir une tache de diffraction à 2 microns de longueur d'onde, et ça l'est bien avant à 1 micron. Donc ça veut dire que la tache est beaucoup plus petite, et deux fois plus petite que celle qui était spécifiée. Donc c'est très très bien. Ensuite, donc voilà, tout marche bien, et ce qu'on a fait ensuite, c'était ce qu'on appelle le commissioning, enfin la recette en vol des instruments. Il y a 4 instruments au plan focal du télescope. Il y a 3 instruments qui font de l'imagerie, de la spectroscopie dans le domaine de l'infrarouge proche, donc disons de 0,8 à 5 microns, et un instrument, l'instrument MIRI, Mid-Infrared Instrument, qui fait des observations dans l'infrarouge moyen. Il y a 17 modes d'observation, et dont 10 modes dédiés aux observations d'exoplanètes. Donne aussi une idée de la complexité. Et là, je m'arrête un moment pour me faire un petit plaisir sur MIRI, parce que j'ai travaillé depuis 1998 sur cet instrument. Et donc, ça a été un instrument fait par donc l'Europe et la NASA. On était un consortium de pays européens et puis qui ont fait ce que vous voyez là, hein, le bloc optomécanique. Les US nous ont fourni les capteurs, les détecteurs, et puis le fait de pouvoir refroidir ce télescope. Donc un zoom sur la partie française, c'est la caméra de cet instrument MIRI qui a une caméra, un spectromètre, et ça c'est moi en 98. Voilà, et oui, et oui. Et donc, voilà, on a fabriqué ça, et ça a été livré très en avance. On l'a livré en 2010 pour un lancement en 2021. Il y a eu des retards, beaucoup de retards du JWST, mais nous, on avait livré à temps. Voilà, et donc, le JWST permet vraiment un pas de géant, on dit, fait de la science... il fait un pas de géant dans la science, et on peut le voir à travers ces deux images. À gauche, c'est une image dans le nuage de Magellan, peu importe, par le télescope précédent, qui était Spitzer, et l'image avec le web. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours, hein. On voit très bien la qualité image et puis la sensibilité qui est vraiment augmentée. Ouais.
Donc Spitzer, c'est un autre télescope, c'est ça ?
Voilà, c'était un autre télescope dans l'infrarouge. Il ne faisait que 80 cm de diamètre, oui, à comparer aux 6,50 m. Donc ça fait toute la différence, à la fois pour collecter plus de lumière et pour avoir une tâche de diffraction beaucoup plus petite. Donc on voit les tâches de diffraction.
Et Spitzer, il a de quel décompte ?
Alors, il est terminé maintenant, et ça a dû être dans les années 2004.
D'accord.
Donc c'était...
Et
WebMiri,
vous avez dit, c'est ça ?
Et
WebMiri, vous avez dit...
Donc, ah oui, non, on l'a livré en 2010, mais il observe depuis 2021, depuis le lancement.
Ah oui, d'accord.
Donc c'était... Voilà un autre exemple. Moi, j'avais travaillé... Alors, c'était le satellite encore précédent... Spitzer, c'était le satellite ISO, et donc j'avais travaillé sur ces images. Ça, c'est un reste de supernova. Quand une étoile finit sa vie, certaines explosent et éjectent de la matière dans le milieu interstellaire. Donc ça, c'était l'image du reste de supernova Cassiope A, observé par ISO en 95, enfin publié en 96, et l'image du même objet observé avec MIRI en 2024. Donc voilà, ça parle aussi, c'est fantastique le progrès qu'on a fait. Alors, le JWST, il faut bien voir que ça n'est pas un télescope focalisé sur une science. C'est un observatoire où tout le monde peut demander du temps d'observation et on peut regarder quels sont les thématiques qui sont les plus demandées. Donc il y a tout l'aspect galaxie, notamment d'aller chercher les premières galaxies dans l'univers. Ça peut faire sujet d'une autre conférence, il y a plein de choses là-dessus. Et puis les exoplanètes. Et c'est sur les exoplanètes que je vais, développer. Alors avant, il faut voir comment ça se passe pour avoir du temps de télescope sur un tel télescope. Alors, tous les ans, il y a un appel de la NASA à la communauté en disant « Proposez-nous des observations. » Et dites-nous évidemment pourquoi vous voulez observer tel objet, etc. Donc, on répond. Il y a des comités scientifiques qui classent les propositions et les meilleures propositions sont acceptées. Ce qu'on appelle la pression, c'est le nombre d'heures demandé par rapport au nombre d'heures possibles. Et la pression, c'est presque un facteur, elle augmente. Au début, elle était autour de 4, parce que les gens, le premier appel, les gens ne savaient pas trop si c'est des performances, etc. Et puis, elle ne fait que d'augmenter maintenant pour arriver à 9, c'est-à-dire qu'il y a 9 fois plus de temps demandé que de temps possible, pour bien montrer le besoin et la difficulté d'obtenir du temps avec ce télescope. Alors avant de passer aux exoplanètes, je vous montre quelques belles images, parce que c'est aussi ça le JWST, mais ça, vous avez dû en voir beaucoup, et je vais juste... Alors c'est des nébuleuses, hein. C'est des nébuleuses dans lesquelles se forment des étoiles. Il y a tout un aspect formation des étoiles, notamment dans l'infrarouge, qui est passionnant, encore une autre nébuleuse. Voilà, celle-là, c'est la nébuleuse de la Tarentule. Là, c'est quand il y a une étoile qui se forme, il y a un disque d'accrétion et des jets de matière. Donc, on voit très bien les jets de matière avec une résolution jamais obtenue. Et ça va même jusqu'à Jupiter. Mais voilà. Et donc, j'en viens maintenant au sujet principal, c'est-à-dire les exoplanètes avec le James Webb Space Telescope. Alors, il y a deux façons d'observer les exoplanètes avec le Webb. La première façon, c'est d'ailleurs la façon où on pense d'abord, c'est de faire des images. Alors, vous avez entendu beaucoup de détections par des façons indirectes, c'est-à-dire on regarde l'étoile, on regarde soit si elle bouge ou soit on regarde si sa lumière bouge. Mais on peut aussi, c'est très compliqué parce que le contraste est énorme entre l'exoplanète, sa lumière et l'étoile, C'est comme si on regardait à côté d'un phare une bougie. Par contre, il y a certaines exoplanètes qui sont très très loin, relativement loin, et il y a des systèmes optiques qui permettent d'atténuer la lumière reçue de l'étoile, des coronographes notamment. Et donc, c'est une méthode avec le JWST, comme il est assez grand, la tâche de diffraction est relativement petite, donc on peut observer par imagerie directe certaines exoplanètes. Et vous avez là des premiers systèmes qu'on a pu observer. L'étoile, on ne la voit pas, elle a été entre guillemets éteinte, et on voit les quatre exoplanètes autour de l'étoile HR 87-99. Donc ça a été la première fois qu'on les voyait dans cette gamme de longueur d'onde. Elles étaient connues avant, mais dans les domaines visibles ou proches infrarouges. Par contre, avec cette méthode, on ne voit que des géantes loin de leur étoile et jeunes parce qu'elles doivent émettre suffisamment. Si on veut voir d'autres types d'étoiles, de planètes, il faut avoir recours à la méthode classique des transits, et donc le JWST permet aussi de faire des transits. Donc voilà, en zoom, parce que c'est joli. Et alors, le petit point qu'on devine là-bas, c'est une galaxie. On s'est aperçu qu'on était très sensible et on voyait beaucoup de galaxies dans nos images. Voilà, donc les planètes, notamment les rocheuses, seule la méthode des transits permet actuellement de les observer. Alors, pour ces rocheuses, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles ont une atmosphère? Et si oui, primaire ou seconde? Alors, une façon de répondre à cette question, j'ai développé pourquoi, c'est de mesurer leur température. Je vais expliquer pourquoi après. Et comment on peut mesurer la température d'une exoplanète? Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas en regardant le flux de l'étoile quand l'exoplanète passe devant, c'est en regardant quand elle passe derrière. Alors, pourquoi on regarde quand elle passe derrière? Parce que avant de passer derrière, elle fait face à nous, donc on voit l'émission de l'étoile et celle de l'exoplanète. Elle est derrière, il n'y a plus que l'étoile. On fait la différence, on a l'émission de l'exoplanète. Ça paraît simple. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des bruits systématiques. Enfin bon, il faut lutter un peu, mais le principe est simple. Donc voilà comment on a le flux. Et une fois qu'on a le flux, comme on connaît le rayon, on peut en déduire la température avec des suppositions que c'est un corps noir, que l'albédo est de temps, etc. Évidemment, c'est... Alors, on a fait ça pour l'étoile Trappiste. Les amateurs de bière sauront que c'est un groupe belge qui a trouvé ces premières exoplanètes. Donc, c'est une toute petite étoile. Vous voyez Jupiter, vous voyez l'étoile, pour donner une idée de la taille, donc c'est tout petit. Elle ne paye vraiment pas de mine, elle est très froide, donc 2250 degrés Celsius à comparer au Soleil, 5500. Un dixième du rayon du Soleil, une masse aussi, un dixième de celui de la masse du Soleil, et autre avantage, elle est très proche, à 40 années-lumière. Mais ce qui est encore plus remarquable pour cette étoile, c'est qu'elle est entourée de 7 exoplanètes rocheuses en plus. Donc c'est des planètes qui ont entre 0,75 et 1,15 rayons de la Terre et une densité qui est de l'ordre de celle de Mars, par exemple, pour la planète 1b. On les appelle Trappiste 1b, B, C, D, E, F, G, c'est pas original, mais voilà. Et donc ça tourne, comme elles sont très proches de leur étoile qui est petite, et elles font un tour autour de l'étoile entre 1,5 à 19 jours. Et ouais. Donc comment elles acquièrent leur température, ces planètes? Elles sont chauffées par l'étoile. Donc elles ont une température d'équilibre chauffée par l'étoile. C'est comme ça, parce qu'elles sont vieilles. Au départ, une planète est chaude quand elle vient de se former, mais là, elles sont vieilles, elles ont eu le temps de refroidir, et c'est le chauffage par l'étoile qui leur permet d'avoir une température. Ici, c'est juste pour comparer le système solaire avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et le système trappiste. Vous voyez, c'est dans toutes ces exoplanètes sont à l'intérieur de l'orbite de Mercure, donc sont beaucoup plus compactes que le système solaire, hein, parce que l'étoile est toute petite, c'est une des raisons. Et du coup, comme l'étoile est plus petite, il y a un certain nombre de ces exoplanètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, qu'est-ce que c'est que la zone habitable ? Il ne faut pas chercher des petits bonhommes verts, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut simplement dire que l'eau peut être sous la forme liquide. On pense que l'eau est un ingrédient important pour la vie. Donc, si l'exoplanète est trop proche de son étoile, l'eau est gazeuse. Si elle est trop loin, l'eau est gelée. Donc, on dit qu'il y a une zone où on peut avoir de l'eau liquide. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est... Voilà. Et comme c'est une petite étoile qui est peu chaude, Trappistin, elle émet peu. Donc, la zone habitable est beaucoup plus proche que la zone habitable autour du Soleil, parce que le Soleil est beaucoup plus chaud, il émet plus, donc pour avoir de l'eau sous forme liquide, il faut être plus loin. Donc, c'est aussi une des caractéristiques intéressantes de ce système trappistin. Autour d'une petite étoile peu lumineuse, eh bien, les zones habitables sont beaucoup plus proches et il y a trois des exoplanètes qui sont dites dans la zone habitable. Alors, comment on peut mesurer la température ? Donc, j'en ai déjà parlé un peu, mais quel est le meilleur instrument pour le faire ? Ça dépend de la température parce que vous avez la loi du corps noir que je peux remontrer ici. Donc, selon la température de l'objet, en supposant que c'est un corps noir, mais c'est une bonne approximation, vous voyez que le pic d'émission dépend de la longueur d'onde, et au plus c'est froid, au plus ça émet dans des grandes longueurs d'onde. Donc la température estimée pour Trappiste 1b, notamment, la première planète autour de Trappiste, eh bien c'était autour de 450-500 K, et donc le bon instrument, ça tombe bien, c'était MIRI, c'était le nôtre. Donc, dans le temps garanti, quand on fait un instrument, on a un peu de temps garanti, c'est-à-dire qu'on peut observer ce qu'on veut, enfin pas n'importe quoi quand même, il y a un comité qui regarde, mais on est sûr d'avoir le temps. Et quand vous avez vu tout à l'heure la pression qu'il y avait, c'est quand même un atout de se dire, moi j'ai quand même un peu de temps et je vais pouvoir développer un certain nombre de programmes. Et l'observation de Trappiste 1b a été l'un des projets, des observations qu'on a mis en avant et qu'on a pu observer. Alors, la mesure, alors c'est un petit truc humoristique que j'ai fait. Donc quand on regarde, on pointe le télescope et qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on lit la température, eh bien, 2250 degrés. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'étoile. Donc c'est la température de l'étoile qu'on voit. Et je vous ai expliqué tout à l'heure comment faire pour voir la température de l'exoplanète. Eh bien, on peut les séparer spatialement, mais c'est très difficile. Et donc, on peut le faire dans certaines. Mais sinon, on peut le faire temporellement. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On regarde avant que ça passe derrière, puis après. Donc, il y a une temporalité qui fait qu'on est avec la lumière de l'exoplanète et puis avec juste la lumière de l'étoile. Enfin, on a les deux, puis juste une.
Là, on a le Soleil, la planète, donc une partie au contact de son étoile et une partie au contact, hors du contact de son étoile,
c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire on regarde le système, on ne peut pas les séparer, on a l'émission des deux, mais un moment, l'exoplanète passe derrière son étoile. Donc elle n'émet plus. Avant qu'elle passe derrière, elle est cachée, donc on ne voit plus ce qu'elle émet, mais avant qu'elle passe, on a son émission plus celle de l'étoile. Elle passe derrière, on n'a plus que l'étoile. On fait la différence, on a l'exoplanète.
Donc il y a l'exoplanète qui a une température de base, c'est ça ?
Ouais.
Et le Soleil, son Soleil qui a une autre température, c'est ça ?
Oui, donc on
et en fait, de plus forte, c'est-à-dire que quand il fait jour, sur cette planète-là, on prend la température lors de ce quand elle est quand il fait jour, et quand il fait nuit sur cette planète-là, on fait la moyenne des deux, en fait.
Non, mais pas tout à fait, mais je vais expliquer pourquoi. On ne fait pas la moyenne des deux, mais je vais venir pour. C'est tout à fait, mais c'est bien, température jour, température nuit, je vais en parler juste après. Et c'est tout à fait important. On voit la température, on voit la face, alors on va l'appeler jour, parce que, mais avant qu'elle passe derrière son étoile, on voit la température de la face que l'on voit. Et on va voir après que ça, c'est la face côté jour, parce que ces planètes sont synchronisées. Mais je vais expliquer après. Donc voilà, ça c'est pour dire, voilà, on suit temporellement. Donc quand il y a un transit, c'est assez fort. Et quand il y a une éclipse, en général, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus faible. Donc voilà, temporellement, qu'est-ce qu'on voit ? Voilà, là, elle passe derrière, hop, on ne la voit plus. Et donc c'est comme ça qu'on a ces observations. Voilà, et donc, on a fait cette mesure avec des collègues américains, on a publié ça dans Nature, et donc voilà ce qu'on a vu, on a bien vu cette diminution de lumière quand la planète passait derrière son étoile. Donc les observations sont assez longues, enfin là il a fallu 3h30 d'observation pour suivre bien avant ce qui se passait, pendant l'éclipse et après l'éclipse. On a besoin de ces références parce qu'en absolu, on ne peut pas déterminer vraiment la précision. Donc c'est du relatif. C'est avant, après. Et la température qu'on a mesurée, alors, on s'attendait à une température autour de 400 Kelvin. C'est notre unité, hein, mais c'est... Et on a mesuré beaucoup plus. Donc, quelle était l'hypothèse pour donner une température d'autour de 400 Kelvin ? C'était que c'était une température d'équilibre en supposant que l'énergie fournie par l'étoile était redistribuée dans toute l'exoplanète. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de côté jour, côté nuit. Et là, on trouve beaucoup plus. Alors, quelle pourrait être l'explication ? Alors, une explication. Pour comprendre l'explication, il faut déjà savoir que ces exoplanètes autour de Trappist sont en rotation synchrone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en rotation synchrone ? Ça veut dire que c'est toujours la même face qui est éclairée. C'est exactement la même chose que pour la Lune vis-à-vis de la Terre. On voit toujours la même face. Donc, c'est, la Lune, toujours éclairée de la même façon. Donc, on a toujours la même chose. C'est-à-dire que ça fait un tour sur elle-même en même temps qu'un tour d'orbite. Donc, toujours, il y a une face côté jour et une face côté nuit. Toujours comme ça. Donc, il y a une face qui est chauffée et une face qui est toujours pas éclairée. Et on a calculé en disant, c'est toujours, on calcule la température de la face chaude, et là, c'est la température mesurée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission d'énergie d'une face chaude à la face derrière. Et qu'est-ce qui peut générer ? C'est une atmosphère. Et donc, ça veut simplement dire que on a là un indice comme quoi il n'y a pas d'atmosphère sur cette exoplanète. Sinon, il y aurait distribution de l'énergie par les vents, etc. Il ne peut pas y avoir un côté à 500, un côté à 400 avec une atmosphère. Donc, c'est comme ça, à partir de la température, qu'on peut dire celle-là n'a pas d'atmosphère. Alors, il y en a une autre, ça, ce n'est pas nous, c'est des collègues. Alors ça, c'est une assez différente. C'est aussi une rocheuse. Elle s'appelle 55 ans Crieux. Elle est très chaude, celle-là. Elle est encore plus proche de son étoile. Et puis, c'est une étoile plus chaude. Et là, même chose. Température mesurée. 1500 K. 1500 degrés Celsius. Alors que si on se disait toute l'énergie reste du même côté, ça serait plutôt une température de 2240. Donc là, il y a très, très bons indices pour dire qu'il y a une atmosphère qui répartit l'énergie de la face jour à la face nuit. Et alors après, on essaye après de faire de la spectroscopie pour essayer de voir dans cette atmosphère qu'est-ce qu'il y a comme molécule. Alors là, c'est encore très préliminaire, il y a des grandes barres d'erreur, les gens ne sont pas encore tous d'accord, mais il semblerait qu'il y ait une atmosphère avec du CO2. Et comme c'est très chaud, les roches sont probablement fondues, donc c'est une atmosphère qui provient d'un magma de roches fondues, ça serait ça. Donc ça, c'est une des dernières découvertes hein, de cette année. Et voilà, c'est... Alors ce n'est qu'un début, hein. Ça, ce sont toutes les rocheuses qui pourraient être observées par le JWST. Donc il y a encore pas mal de boulot. Le directeur du STSIS, c'est le centre d'opération du JWST, lui a aussi du temps discrétionnaire. Et il a dit que 500 heures seront dédiées à des observations comme celles qu'on a faites autour d'autres étoiles pour voir s'il y a une atmosphère ou pas. Donc ça veut dire qu'on va savoir d'ici quelques années celle qui a une atmosphère ou pas. Rapidement, puisque j'ai parlé beaucoup de rocheuses, il y a aussi d'autres exoplanètes assez extraordinaires. Alors je vous en présente une qui a été étudiée par mon étudiante à thèse qui vient d'avoir le prix de la chancellerie, c'est WASP-107b, qui a un rayon similaire à Jupiter et une masse similaire à celle de Neptune. C'est pour ça qu'elle est très très peu dense. Certains l'appellent l'exoplanète Barbe à Papa, parce que la Barbe à Papa, c'est très très peu dense, pour donner une image. Et donc elle a une température de 800 degrés, une période, et donc on l'a... Oui, en 5-6 jours, elle fait un tour autour de son étoile. Donc ce sont des exoplanètes très proches de leur étoile. Et donc là, on a fait de la spectroscopie et on a trouvé quelque chose d'inattendu. C'est du SO2. Donc, sulfure, ça ne doit pas sentir très bon dans l'atmosphère. Mais donc, personne n'avait prédit ça. Et bon, sinon, il y a de l'eau, il y a du NH3, l'ammoniac, etc. Mais ça, c'était prévu. Par contre, le SO2 n'était pas prévu. Et donc... ça a été vu aussi à plus courte longueur d'onde. Et donc, il y a eu des tas de modèles qui ont dû être pris pour expliquer ça. Et c'est des modèles qui, maintenant, prennent en compte la photochimie dans la haute atmosphère, c'est-à-dire que le rayonnement de l'étoile induit des réactions en haute atmosphère, notamment la photodissociation de l'eau, qui, avec des OH, etc., finit par faire du SO2. Donc, il a fallu rajouter dans les modèles cette notion de photochimie qui n'était pas là. Donc voilà, avant de faire une petite démonstration avec la caméra, parler un peu des perspectives. Bon, le JWST, j'espère qu'il durera 25 ans et qu'il y aura plein de notamment de rocheuses, parce que c'est celle que je préfère. Il y aura après la mission ESA, cette fois-ci ESA, qui s'appelle Ariel, et qui sera dédiée, celle-là, aux observations d'atmosphères d'exoplanètes, qui sera lancée en 2029. Cette mission ne pourra pas étudier l'atmosphère d'exoplanètes rocheuses autour d'étoiles comme le Soleil. Il faudra attendre le Habitable World Observatory, qui est le successeur, en gros, enfin la mission phare de la NASA, la prochaine mission phare de la NASA. Donc c'est pour les années mi-2040, disons. Ça sera aussi, ça sera pas beaucoup plus grand que le JWST, mais ça travaillera dans l'ultraviolet et le visible. Et un peu, ouais. C'est aussi les défis, c'est dans l'UV, les tâches de diffraction sont toutes petites, donc il faut des miroirs polis, très très bien polis, etc. Donc c'est là le challenge, c'est pas tellement la taille maintenant, c'est la qualité des miroirs. Et puis ils veulent aussi que, donc il sera aussi en L2, en orbite autour d'L2, 1,5 million de kilomètres de nous, mais ils veulent aussi que ça soit servicing, c'est-à-dire qu'on puisse, par exemple, aller changer un instrument comme c'est fait pour, ça a été fait pour Hubble, mais Hubble, c'est à 400 km, c'est pas loin de nous, là, à 1,5 million de kilomètres, mais c'est dans les plans, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille un peu aussi. Donc les perspectives sont grandioses. Je ne sais pas ce que fera Trump. Ça. Il avait voulu arrêter le JWST. Il n'a pas pu le faire parce que le Congrès a dit non, on ne l'arrête pas. Le président, le Congrès a quand même une... Enfin, Congrès, Sénat. Voilà, quelques mots. Là, donc sur la mission Ariel, elle est toute petite, hein, mais les planètes qu'on regarde sont très brillantes. Donc certaines planètes ne peuvent même pas être observées par le JWST, enfin, où on est obligé de faire des modes d'observation très particuliers parce que le JWST est saturé par les brillantes. Donc il y aura cette fois-ci un millier d'exoplanètes qui seront caractérisées. Et on travaille à un des instruments, le spectromètre, et puis le Habitable Worlds. Alors pour finir, si vous avez encore un peu de temps avant les questions... je peux vous montrer un peu l'infrarouge, quelques propriétés d'infrarouge qui sont utilisées dans le JWST. Si ça marche, donc je vais connecter. Est-ce que vous voyez ? Oui. Alors qu'est-ce que vous remarquez tout de suite ? Ouais. Mais surtout, c'est les lunettes, déjà. Alors là, qu'est-ce que vous... Alors, je vais expliquer pourquoi les lunettes. Alors, déjà, en gros, vous avez... là, c'est une échelle de température. Hein. Un peu de chose près, la calibration n'est pas parfaite. Donc, les lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? C'est quoi ? Exactement. Non, mais on voit l'émission du corps. D'ailleurs, si on éteint, si on peut éteindre, est-ce que ça va changer quelque chose ? Oui ? Non. Ben non, ça ne change absolument rien. Parce que dans le visible, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la lumière de la lampe qui est réfléchie par nous. Réfléchie, ce n'est pas nous qui émettons, on réfléchit. Alors que là, c'est notre corps, sa chaleur, qui émet. Et donc, c'est ce qu'on voit. Alors, pourquoi les lunettes, c'est noir ?
C'est son
froid. Non, c'est... Enfin, non, enfin, il y a un peu de ça, mais c'est surtout... Voilà, exactement. La lumière laisse passer le visible, mais arrête l'infrarouge. Donc, la lumière émise par vos yeux est arrêtée par vos verres de lunettes. Donc, ça... alors, dans un sens un peu... S'il y a quelqu'un, qu'est-ce que je vois bien ? Allez, là ça peut être... Il y a quelqu'un qui veut... Alors soit je fais venir... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir ici ? Non, ou quelqu'un qui veut bien mettre son bras dans un sac en plastique ? Ça n'a rien de... Ouais, si tu te mets devant, bah devant la caméra là. Alors, vas-y, où je vais bouger. Alors, attends, je vais. Attends, vas-y. Ouais, bon, bah très bien. Et bah, voilà, bouge un peu. Ouais. Voilà. Donc là, c'est le contraire. La lumière infrarouge traverse le sac plastique, alors que la lumière visible, pas du tout. On peut faire peut-être une dernière... Oui, c'est bien, je pense que les gens...
J'ai réussi.
Bravo. Diplôme d'infrarouge. Alors, alors, est-ce que... dernière petite expérience, c'est... Est-ce que quelqu'un peut aller venir sur un endroit là et mettre sa main sur qu'est-ce qu'il fait lui?
Moi j'avais pas une plus difficile.
Donc le télescope James Webb utilise l'infrarouge pour observer,
c'est ça? Oui, il observe dans l'infrarouge. D'accord. Il observe l'émission, oui, par exemple, d'une exoplanète. Exactement. D'accord. Alors attends, pourquoi il m'a fait ça? Je ne veux pas.
Et pourquoi les lunettes stoppent le...
Ah, c'est une propriété des matériaux.
Hein.
Oui.
Oui.
Et
du coup, les photons dans l'infrarouge, ils sont arrêtés pendant cette classe-ci.
Voilà, exactement. Oui.
C'est pour ses propriétés à chaque
fois. Oui, exactement. Et je peux vous montrer comment on l'utilise dans la... Voilà. Non, je le ferai après, je montrerai après. Alors, attends, il faudrait... Est-ce que tu peux... mettre ta main là, que je la vois. Voilà. Et tu l'enlèves. Et voilà, fais chauffer un petit peu. Et le bois n'est pas conducteur. Si tu faisais ça sur du métal... Ah, il est chaud, mon... Ouais, mais il est... Vas-y. Ça se voit moins, normalement. Enfin, c'est du métal... Le métal trans... Ouais, c'est pour ça que ça... Non, le métal transmet rapidement.
Ouais.
Attends. Vas-y. Un petit peu, c'est un petit peu, mais beaucoup moins. Ça met un certain temps à. Voilà. S'il y en a qui veulent leur photo en infrarouge. Voilà, je suis prêt à répondre aux questions. Ben oui, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a en tous les cas détecté une qui était sur l'une, pas autour des deux, mais autour d'une. Alors il faut faire attention parce que c'est... Voilà, exactement, il y a cet aspect de stabilité qu'il faut prendre ça en compte. Et on est en train d'en chercher une. Alors la Alpha du Centaure, justement, il y a Centaure A, Centaure B, et on a un programme... de recherche d'exoplanètes autour de A. On a des données, mais il nous en faut des complémentaires, c'est très difficile. Mais en imagerie directe, là, avec la coronographie. Donc on a un programme en cours. Ouais.
Dans le cas où il y aurait, par exemple, deux étoiles comme deux soleils, avec une planète habitable autour, comment la vie biologique, en fait, joue-t-elle? Repos, la nuit et activité du jour, pourrait se créer, en fait. Ce serait joli à voir, mais bon, tout serait modifié, tout serait complètement...
Ah oui, mais... je ne peux pas répondre à la question, mais je veux dire, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on voit une telle diversité dans les exoplanètes que je pense que notre imagination n'est pas encore... est pas capable d'appréhender tout, voilà, tout ce qui peut, toutes les bises. D'accord, ouais, je ne connais pas. Ah, il faut que je répète les questions, j'ai oublié.
Vous avez parlé d'une exoplanète très très proche de son étoile,
oui.
Très massive apparemment.
Pas très massive, l'exoplanète elle est de la masse de la Terre. Hein. C'est... Après,
ça pourrait pas être une étoile double
Ah non, Enfin, non. Vu le, il y a quand même une grande différence entre la masse de la planète, qui est l'exoplanète, qui est la masse de la Terre. Et même si elle est petite, l'étoile, j'ai comparé avec Jupiter pour dire la taille, c'est semblable à Jupiter, mais si on compare à la Terre, elle est beaucoup plus grosse. Donc, non, c'est pas une. Et en plus, il y en a 7. Donc, c'est pas une binaire. Ça peut pas être une binaire. Par contre, on ne sait pas trop comment elle se forme dans ce système.
Comment est-ce qu'on sait que les planètes sont synchrones ?
Ah, comment sait-on si les planètes sont synchrones ? Alors, il y a déjà les modèles, dans le sens où on sait qu'elles sont très proches, et on sait que leur excentricité est très faible. On peut mesurer l'excentricité. L'excentricité, c'est quand même... quand il y a une grande excentricité, on se dit qu'elles ne sont pas forcément en rotation synchrone. Et donc là, pour Trappiste, on peut mesurer très, très précisément l'excentricité et la barre d'erreur est toute petite. Donc, c'est une hypothèse quelquefois qu'on fait. On se dit, ça devrait, les modèles nous disent que, mais la mesure est pas, c'est pas direct. Donc c'est, oui, c'est une bonne question.
C'est pas avec les calculs dynamiques connaissant l'âge du système dont on a parlé.
Ah, l'âge du système joue, mais non, mais ce qui est le paramètre difficile, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qu'il ferait, c'est, donc il y a des coefficients. Voilà, exactement, le coefficient Q est très mal déterminé. Non. Oui ?
Alors moi, je voulais poser une question. Vous avez dit qu'il y avait plus d'étoiles, de planètes que
oui.
D'étoiles.
Oui.
Donc là, j'étais en train de regarder, je crois que c'est de l'ordre de 2023 étoiles dans l'univers.
Ah, pour l'instant, on reste dans notre galaxie. Hein. On n'a pas encore les moyens de détecter des planètes autour d'étoiles dans d'autres galaxies.
Donc, est-ce que vous supposez qu'il n'y a que dans notre galaxie qu'il y a des planètes, a priori ou...
Ah non, moi je... Non, on suppose rien. On observe. Et on n'a pas... Bon, ça serait en effet très étonnant de dire les étoiles dans notre galaxie ont des exoplanètes, les autres pas. Mais on n'a pas de... On n'a pas d'observation.
Donc, d'une certaine manière, si je ne sais pas, vous avez à parier dans un jeu, il y a peut-être... plus de 1820 planètes
de l'univers. Je ne parie pas. Oui, pour aller, et après, non, mais le but c'était quoi ? D'aller plus loin, non ? Je pense, après les gens me disent, il y a la vie. Voilà. Pourquoi ne sont-ils pas là ? Pourquoi on ne les voit pas ? Mais... Non, donc après, il y a... Il y a la difficulté d'avoir la vie, quelle forme de vie, enfin c'est... Donc on n'avance pas. Enfin, quand même, les progrès, c'est de dire, ça, quand même, il y a 30 ans, on ne savait pas qu'il y avait des planètes autour d'autres étoiles. Donc on avançait, on sait qu'il y en a. Au début, c'était les grosses, les géantes. Maintenant, on sait qu'il y a des rocheuses. Et maintenant, on sait qu'il y a des rocheuses dans la zone habitable. Et on sait qu'on peut commencer à étudier les atmosphères, etc. Donc on avance. Mais le chemin, pour moi, est encore long avant de pouvoir dire on a une.
Une autre question qui me dit, c'est que en 2040, c'est quand même dans 15 ans, et en ce moment, on voit comment la technologie bouge.
Un peu plus.
On voit aussi comment la planète bouge, je ne sais pas trop ce qui se passera en 2040, mais on peut aussi penser qu'on aura plein d'autres suppositions, par exemple, sur comment se forme la vie, etc. Il va y avoir des choses qui vont peut-être faire que le programme va se modifier.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'études d'astrobiologie. C'est un domaine... Alors, attendez, il faut aller dans l'ordre. Il y avait toi, là-bas, qui avait levé le doigt.
Qui avait été posé la question, c'était quand même, par exemple, on peut détecter au niveau de la lumière, de par l'activité humaine au niveau de l'espace, puisque avec les détections de lumière de James Webb, on aurait détecté quelque chose d'anormal sur une planète qui gérerait un disque de vie,
ce qu'on... si on trouve, on observe des atmosphères, si on trouve dans ces atmosphères quelque chose qu'on ne peut pas expliquer classiquement par les modèles de chimie et physique, mais comme c'est des domaines quand même complexes, il faut être sûr qu'on n'a pas d'autres explications plutôt que de dire. Voilà, et c'est pour ça que ça prendra quand même très longtemps, si on voit quelque chose d'anormal, de dire c'est une biosignature. Il faudra vraiment des confirmations. Donc, il faut être très prudent sur cet aspect-là du gilou lesté. Alors, attends, c'était toi.
Oui, c'est un peu plus en plus ce que tu viens de dire. C'est une biosignature, c'est pas, c'est juste quelque chose d'anormal. C'est pas forcément qu'il y a ça dans l'atmosphère, il y a ça.
Eh oui. Oui, voilà, c'est plus compliqué. Au début, on pensait qu'il suffisait de dire il y a ça et ça, il y a de l'ozone ou il y a du mélange ozone CH4. Il y a encore des tas de discussions là-dessus. Hein. Mais en travaillant, on voit qu'il peut y avoir des façons abiotiques, enfin pas de faire ces molécules. Donc c'est tout ce travail-là. Mais ça peut être aussi. Il y a des tas de travaux qui se font en ce moment sur savoir peut-être les différentes chaînes chimiques pour amener à des signatures biologiques. Mais c'est un travail en cours et ce n'est pas une réponse immédiate qu'on aura. Oui, alors attends, il y en avait une là-bas et après.
Vous êtes capable de donner la proportion d'une molécule dans l'atmosphère ?
On a des méthodes qu'on appelle retrieval, c'est-à-dire qu'à partir de l'observation des raies spectrales, il y a des modèles, alors il faut le profil pression-température, ce sont ces modèles-là. Alors il y a différents modèles, hein, soit avec la chimie libre, c'est-à-dire on ne met pas de réaction chimique et on voit ce que nous donne le feed du spectre, ou avec des modèles chimiques.
Alors le SO2, il y avait quelle proportion de...
J'ai plus en tête la proportion exacte. C'était. Alors, c'est toujours des choses relativement faibles. Hein. Là, c'est l'hydrogène et l'hélium qui dominent dans un WASP 107. J'aurais peur de dire des bêtises, mais c'est, je dirais comme ça, 10-4 ou quelque chose comme ça. Je mets à vérifier. Ouais. Oui.
Donc, avec le télescope Webb, pour l'instant, on peut mesurer l'émission de lumière d'une exoplanète dans le spectre des infrarouges.
Ouais.
Et plus tard, avec la mission en 2040 de Hubble Observatory, on pourra mesurer dans les autres spectres, ultraviolets par exemple.
Exactement.
Et on aura des informations différentes quand on pourra mesurer dans les autres spectres, ou oui, les mêmes, mais approfondi, plus précis.
Alors, très bonne question. Alors, ça va permettre de développer. Alors, le JWST, pour l'instant, ne peut observer que l'atmosphère ou non de rocheuses auprès d'étoiles naines. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus faciles à détecter. Il ne pourra pas voir des atmosphères de planètes rocheuses autour d'étoiles comme le Soleil. C'est hors de sa portée. Par contre, dans l'UV, avec HWO, c'est ça le but. C'est de regarder des rocheuses et de faire les spectres en atmosphère de ces rocheuses dans l'UV. Et il y a des raies aussi moléculaires en UV. Par contre, il est important d'avoir un complément en infrarouge, parce qu'il y a des raies aussi semblables, mais à différentes profondeurs dans les couches, etc. Et là, il y a un projet qui s'appelle LIFE, sur lequel je ne travaille pas, mais qui est dans la roadmap, dans la planification, disons, de l'ESA. Et cette fois-ci, c'est en infrarouge, mais il faut une très bonne résolution angulaire. Et là, on arrive à faire le projet, c'est faire de l'interférométrie dans l'espace avec deux télescopes. Parce qu'en infrarouge, la tâche de diffraction est plus grande. Donc si on veut la même résolution spatiale pour pouvoir les voir de façon en imagerie, ces exoplanètes, il faut des lignes de base, il faut mettre des télescopes loin les uns des autres. Donc c'est un défi aussi d'avoir ce type d'instrument, mais ça sera très complémentaire de ce qui est fait pour HWO en UV et d'avoir le pendant en infrarouge moyen. Donc par exemple, l'ozone, il y a une raie UV et il y a une raie dans le domaine de l'infrarouge moyen, justement. Donc l'idéal serait d'avoir ces deux missions. En effet, UV et infrarouge, mais l'infrarouge, ce n'est pas le JWST, ça sera la mission future. Ouais.
Juste une question par curiosité, savoir si les mesures de polarisation de la lumière sont faites.
Non, enfin, pas avec le JWST, pas.
Vous pensez qu'en futur.
Alors, ça. C'est toujours une question. Au départ, les gens disent qu'il nous faut de la polarisation, et puis à la fin, pour simplifier, etc., il n'y a pas. Donc c'est vrai que la polarisation apporte des informations uniques. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, mais je sais que polarisation, c'est intéressant. Mais bon.
Sur tous les systèmes planétaires potentiels, est-ce que vous pouvez dire combien il y en a de possibles observables par la méthode des transits?
Oui, ah oui, oui. Donc ça dépend. Oui, alors ça dépend évidemment de l'étoile et de la planète. Par exemple, la planète Terre autour du Soleil, la probabilité, en effet, est de que de quelques pourcents. C'est pour ça que c'est pas la meilleure méthode pour aller chercher les terres autour d'étoiles comme le Soleil. Et c'est pour ça que le HWO, c'est de l'imagerie, spectro-imagerie, et LIFE, c'est aussi de l'imagerie. Donc la méthode des transits, ce n'est pas la méthode qui permettra, à l'horizon 2045, d'observer ces rocheuses auprès d'étoiles comme le Soleil. C'est plutôt l'imagerie directe, qui est beaucoup plus difficile, mais qui a l'avantage. Comme en plus on veut des étoiles proches, si on n'en a que quelques pourcents, on en loupe, je veux dire, on n'est pas sûr.
C'est sous-estimé. Actuellement, il y a 6000 exoplanètes qui sont observées, plus ou moins, donc on va sous-estimer fortement le nombre d'exoplanètes possibles.
Ah ben, on ne sous-estime pas parce qu'on sait les billets observationnels. Donc, on peut en déduire.
C'est la méthode des transits qui domine.
Ah oui. Non, mais on prend en compte. On prend en compte la probabilité. Pour dire, il y en a beaucoup plus. Quand on dit il y en a plus que d'étoiles, c'est parce qu'on prend en compte cette probabilité. Oui.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs instruments embarqués sur James Webb, et je voudrais savoir si vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre les différents instruments.
Oui, alors la première différence, c'est la longueur d'onde. Donc, il y en a trois qui vont dans le domaine infrarouge proche, 0,8 ou 0,06, 5 microns, et un seul qui fait le 5, 28 microns. Ensuite, il y en a un qui s'appelle NIRCam, qui est essentiellement dédié à l'imagerie. Il fait aussi un peu de spectroscopie, relativement basse résolution. Et il y en a un autre, NIRSpec, qui a été fait dans l'industrie européenne, qui est essentiellement de la spectroscopie. Et une spectroscopie, au moins dans l'espace, la première fois, on appelle ça avec des MOS. C'est-à-dire, dans le plan focal, il y a des petits actuateurs qui permettent d'ouvrir des portes. Et on peut mettre l'étoile dans ces différentes portes et faire des spectres. On peut choisir, dans le plan focal, ça s'appelle des MOS, des multi-object spectrométeurs. Donc ça, c'est le deuxième instrument. Et le troisième, NIRIS, il fait un peu des deux. Il y avait un aspect redondance et il y a un aspect particulier où il permet d'aller au-delà de la résolution du JWST en mettant dans le plan focal des petites pastilles qui permettent de reproduire une sorte d'interféromètre. Donc ça, c'est un mode un peu spécial, pas très utilisé, mais voilà. Donc, alors non, il y a un grand champ, et ouais, j'aurais dû le dire quand j'ai montré, il y a un grand champ du télescope et chaque instrument à une partie du champ. Donc on ne peut pas faire des observations simultanées du même champ. Par contre, on peut faire des observations simultanées de champs différents, et notamment pour les aspects galaxies, ce qui est important, c'est de faire des grands balayages. Et donc là, ça prend toute sa mesure d'avoir des instruments en parallèle, parce qu'on peut repasser un champ et puis l'autre passe sur le champ. Donc,
ouais. Le calcul n'est-il pas tronqué quand on mesure l'émission de lumière de l'exoplanète avec l'étoile? Vous avez expliqué qu'il y a une face qui est calculée quand l'exoplanète est devant l'étoile, et puis une autre quand l'exoplanète se situe derrière. Mais quand l'exoplanète est devant l'étoile, elle cache une partie de la lumière qui est émise par l'astre. Donc il y a une part inconnue dans...
Non, parce que... Alors, quand il y a l'orbite, l'exoplanète, quand elle passe devant l'étoile, elle cache en effet le côté, mais après, elle ne cache plus du tout. Et quand elle arrive avant l'éclipse, elle ne cache rien du tout. Puisqu'elle est... elle est à côté. Donc, il n'y a pas... Non. Et par contre, pour voir le côté nuit, quand elles sont en synchrone, eh bien, on regarde juste avant le transit quelle est l'émission. Là, on a l'étoile plus le côté nuit, et on sait, et on est obligé de prendre l'étoile seule lors du transit. Donc, mais il n'y a pas d'occultation avant l'éclipse.
Oui, parce que quand elle était devant, j'aurais dit qu'elle fait de l'ombre, forcément.
Ah, quand elle est devant, oui. Oui, ah oui, tout à fait.
Et donc, on a cette partie de la lumière de l'étoile qui est...
Oui, tout à fait.
Qu'on ne mesure pas.
Oui, mais on ne prend pas du tout cette observation-là en compte. Nous, on prend l'observation que quand elle est à côté.
À côté.
Hein. Elle est à côté et après, elle passe derrière. Mais avant de passer derrière, elle est à côté. Donc, elle... Ouais.
Avec le programme de lancement de recherche de zones potentiellement habitables de 2040, est-ce que ça pourrait montrer la voie à la trouvaille d'une planète vraiment habitable où il pourrait vraiment y avoir des formes de vie avant la fin du siècle?
Alors, on peut éteindre la caméra. En tous les cas, on va essayer. Et en effet, ça se développe très vite, très, très rapidement. Enfin, le domaine astrophysique, en général, est en plein développement, comme les aspects biologie, etc. Ce n'est pas le seul, mais ça avance, en effet, très, 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 très vite. Et ce qui est annoncé, c'est, en effet, et je pense que ça, on peut arriver à avoir des spectres d'exoplanètes rocheuses comme la Terre autour d'étoiles comme le Soleil, ce qu'on ne peut pas faire actuellement avec le JWST. Hein, c'est des spectres autour d'étoiles naines pour les rocheuses. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est très difficile, mais le JWST à son début était aussi très difficile, hein, les aspects miroirs, tout ça, et donc oui, c'est le but affiché. Alors après, qu'est-ce qu'on verra? Ça, je ne sais pas, mais... Et ça sera de nouveau très difficile de dire c'est une biosignature ou pas. Et c'est pour ça aussi que d'avoir à la fois HWO et LIFE dans l'infrarouge, ça aussi permettra de renforcer aussi ce qu'on va trouver. Mais non, c'est fantastique, hein, ce qui va continuer à avancer.
Oui, c'est ce que je dis, quoi. Je pensais pas entendre de belles choses. Non, c'est sûr. Quoi. Mais c'est ce que je dis. Il y a 30 ans, on ne trouvait pas ça, c'est tout ça.
Eh oui. Eh oui.
Alors, on a eu des années.
Ouais. Ah, on vit une période extraordinaire. C'est quelquefois, je mets le titre du film à la fin, on vit une période formidable. Oui.
Est-ce que l'ELT va pouvoir avoir les...
Oui, très bonne question. Alors, l'ELT, hein, question, est-ce que l'ELT va voir des exoplanètes, notamment? Eh bien, oui. Alors, qu'est-ce que l'ELT? C'est Extremely Large Telescope. C'est un télescope de 39 mètres de diamètre qui est en train d'être construit au Chili, qui sera en opération, bon, ils disent 2028 pour les premières. Et je travaille aussi sur un instrument qui sera au foyer de ce télescope géant. Donc là, de nouveau, l'Europe est en première ligne, est en tête. C'est grâce à l'ESO, l'European Southern Observatory. Hein, l'Europe, ça fait des années qu'ils se sont mis ensemble pour l'astrométrie et ça a été vraiment... Donc on est à l'avance par rapport aux États-Unis qui ont du mal à... Ils ont deux projets de télescope, mais c'est l'ELT qui sera là. Hein. Et donc, cette fois-ci, grâce à la grande taille de ce miroir, la résolution est bien meilleure que le JWST. Alors la sensibilité, ça se discute parce qu'il y a l'atmosphère. Mais... Et il y a des programmes d'observation d'exoplanètes proches et de faire aussi de la spectroscopie d'exoplanètes proches. Alors il n'y en a pas énormément qui sont atteignables, mais oui, ça sera un domaine qui va aussi amener des résultats, on espère, intéressants. Mais pas énormément les plus proches, mais c'est important de savoir dans notre environnement les plus proches ce qu'on peut voir. Oui. C'est un des thèmes.
De belles images de James Webb qu'on voit sur Internet, donc c'est de l'infrarouge qui a été mis dans le visible. Oui, pourquoi je sais quand ils ont fait le changement de l'infrarouge au visible, est-ce qu'ils tunent un peu pour que ça soit flashy ou...
Exactement. Non. Il y a une équipe au STCI, il y a Baltimore, qui est dédiée à ça. Il y a des artistes. Non, ils font des superbes images, mais oui, c'est...
Donc c'est pas toujours à la même échelle en fonction des...
Non.
C'est pas comme la caméra.
Ouais, non, c'est... pour que ça soit. Non, ils sont très bons. Alors, il y en a... Vas-y, Deschamps.
Est-ce que le télescope spatial James Webb peut observer des trous noirs, et si oui, comment il pourrait les observer?
Alors, oui, indirectement, oui. Alors, on ne peut pas observer vraiment le trou noir. Ce qu'on observe, c'est son environnement, puisque avant qu'il engloutisse tout, il peut y avoir émission de signal juste avant. Et on peut voir, en effet, avec de la spectroscopie, et notamment un certain nombre de raies très énergétiques, on peut se dire, là, il y a un trou noir. Et le JWST, pour les galaxies, en effet, bon, c'est pas la meilleure méthode pour... détecter des trous noirs, mais on peut voir ces environs, on peut regarder avec le JWST les environs d'un trou noir. Oui. Alors, la photo publiée récemment, c'est justement, c'est pas le trou noir lui-même, c'est toujours son environnement, mais ça a été la meilleure résolution possible pour avoir cette image. C'était pas dans le domaine de l'infrarouge, c'était dans le domaine plutôt radio, avec en prenant des bases à partir des télescopes un peu partout sur la Terre. Et donc ça, c'était aussi une avancée en astro de pouvoir voir les tout derniers l'environnement d'un trou noir. Oui, c'était une image qui a fait le tour du monde, très très jolie, oui, et très très intéressante. Ouais.
La plus proche exoplanète
en zone habitable. Non, on regarde vraiment les étoiles les plus proches. On regarde. Trappiste, je disais tout à l'heure, c'est de l'ordre de 40 années-lumière. C'est déjà assez proche, ça. Hein.
Là, on... Et sur les étoiles les plus proches, on n'a rien observé.
Alors, on a vu des exoplanètes, mais pas de Terre dans les zones habitables. On a vu sur Proxima, il y a des indices d'exoplanètes à partir de vitesse radiale. Donc, ça sera l'ELT justement qui va regarder toutes ces planètes, ces étoiles proches, et là pour contraindre ce qu'il y a comme exoplanètes autour.
Et
Ben, merci encore.
Très bien.